Nous avons pu contenir notre première session. En fait, on devrait passer maintenant à la pause. Mais je voudrais quand même résumer ce qui a été dit ce matin et puis voir s'il faut qu'on enchaîne directement avec les questions ou bien il faut qu'on fasse la pause et puis on fera la pause et on revient. Donc, je vais rapidement résumer cette session de ce matin avant de passer dans les questions. Donc, ce matin, nous avons eu Seydou qui nous a parlé un peu de cette étude, l'approche anthropologique des cas de décès maternel à l'hôpital du Burkina Faso. Donc, c'était vraiment une présentation très intéressante parce que, en termes techniques, je pourrais dire que c'est une audite, c'est vraiment un volet des audits maternels qu'il a fait parce que je pense qu'il a, il a voulu comprendre en fait ce que c'est le volet social qui a influencé effectivement les différents décès dont il a observé. Et je pense que c'est vraiment un bon exemple et une bonne étude qui devrait effectivement être publiée et disséminée aux différentes personnes avec qui il a effectivement travaillé. Et puis, nous avons eu Fatou qui nous a présenté le questionnement sur la pratique obstétricale, mais comme elle disait que il y avait peut-être une erreur au niveau du titre et que plutôt c'était par rapport sa présentation concernait les rencontres entre usagers et prestataires. Donc elle a essayé de comprendre ce que contiennent les mots, les différents mots que peuvent prononcer les prestataires et les usagers. Et donc, elle a essayé de faire une étude comparative. Qu'est-ce que ils ont effectivement fait des travaux de groupe pour voir qu'est-ce que pensent effectivement les prestataires, les usagers, ainsi de suite. Et enfin, nous avons eu Yannick qui nous a fait en fait plus ou moins une synthèse de son travail. En fait, je pense que ce travail se retrouve dans un livre, La bataille des femmes. Et en fait, c'est ce qu'il devait nous présenter. C'est ce qu'il nous a présenté. Donc, pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas le livre, c'est effectivement un bel ouvrage que j'ai eu l'occasion de parcourir. Et donc, de sa présentation, nous pouvons retenir, il nous a présenté un peu les dysfonctionnements du système de santé. Et pour coller à la remarque de professeur Okonofua hier, Yannick nous a donné quelques pistes d'action. Donc, commencer par construire des analyses du tout. En plus, l'articulation et l'harmonisation des interfaces. Et ensuite, construire faire une analyse constructive sur l'éthique.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vraiment, je tiens à remercier le présentateur. Parce qu'à travers de leur présentation, je pense que je commence à trouver vraiment une réponse à mes préoccupations. Et ma préoccupation était finalement pour voir comment on peut se trouver avec une recherche anthropologique, finalement, qui se situe dans le fonctionnement du système de santé, qui n'est pas vraiment seulement, comme maladie Yannick, qui était linéaire, mais plutôt qui aussi est très conscient de la situation. Et en ce moment, je pense que c'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons, par exemple, appliquer cette recherche. Aussi, je salue le fait qu'il y a Fatou qui a parlé de questions de recherche qui est multidisciplinaire. Parce que si c'est multidisciplinaire, donc ça nous permettra dans la construction même de la recherche, dans la conceptualisation du protocole, n'est-ce pas, pour pouvoir finalement mettre en place cet environnement et cette globalité de la recherche. Maintenant, venant finalement à notre jeune chercheur, j'ai beaucoup aimé sa présentation. Vraiment, c'était très, très bien votre travail et je souhaite que peut-être et avant que ça soit trop tard, vous pourrez avoir une opportunité de le compléter. Ça ne reste que même avec un regard en arrière pour dire que c'était vraiment le fonctionnement vraiment de service à cette époque-là, pour que ce soit un travail que nous pouvons, par exemple, appliquer dans cette maternité, parce que je pense que ça vaut de la peine. J'aimais les notions, finalement, des différents normes, et surtout le norme global, qui, finalement, que nous appliquons, sans vraiment se rendre compte que ça pourrait être aussi ce que nous appelons le norme local. Et je donnerai un exemple. Actuellement, on parle beaucoup de l'importance, finalement, des femmes qui viennent dans le centre d'accouchement accompagnées. Or, à travers de votre étude, on se rend compte que ce n'est pas une notion qui, finalement, qui est un peu globalisée. Ça demande plutôt une certaine manière, avant de l'appliquer à chaque femme, avoir peut-être un certain dialogue entre la femme et aussi le soignant, pour que les deux, vraiment, ils se retrouvent dans cette vraiment une intervention. Donc, vraiment, je vous remercie énormément. Et en dernier lieu, je dirais que on s'inquiète, moi personnellement, je m'inquiète vraiment le nombre des études qui sont finalement en train d'être menées et les études qui ont été déjà menées. Et je me pose la question que est-ce que avant que nous définissions des études, nous ne devons pas, par exemple, ce soit d'abord pour dire qu'est-ce que ça fait qu'on se trouve avec ces études qui n'ont finalement pas est appliqué. Et je pense déjà qu'une des raisons, justement, c'est ça que ce sont linéaires. Aussi, on doit se poser la question, plutôt que mettre en place des équipes vraiment étouffées et puis faire vraiment une sorte d'équipe de recherche, est-ce que finalement, certaines choses, certaines méthodologies, on ne peut pas vraiment les introduire dans le fonctionnement du système vraiment de santé. Par exemple, tout ce que vous faites comme les observations, tout ça là, comme un collègue a dit, et je pense qu'il a raison, il a dit pourquoi pas inclure les méthodes vraiment de l'assurance de la qualité. Finalement, fait que les audits soient les vrais audits, n'est-ce pas? Qui fait qu'on se trouve avec un regard anthropologique, socio-anthropologique, tout au long de le service, ce n'est pas seulement dans le temps, n'est-ce pas? Comme ça, ça fait une culture. Et là, maintenant, revenir aussi sur la volonté politique pour dire que quand on a ces recherches, on a des résultats. Est-ce qu'il ne peut pas aussi faire en sorte que les recommandations ils sont véritablement mises en œuvre? Parce que les audits, en prenant comme exemple, si les recommandations ne sont pas mises en compte, donc vraiment, ça ne sert à rien. Je vous remercie.
Merci, la présidente, de me passer enfin la parole. En fait, ma première préoccupation s'adresse à Yannick. Il l'a si bien dit, nous connaissons ce qu'il faut faire, mais rien n'est fait. Pourquoi? Et lorsqu'on regarde un peu en arrière, nous avons eu l'expérience de ce projet tridimensionnel, projet Akwasu, avec l'aspect mobilisation sociale et politique, l'aspect socio-anthropologique et l'aspect clinique, ce qui est un projet exceptionnel. Et tout le monde reconnaît les résultats, du moins intermédiaires, ont été observés comme étant très encourageants. Mais au bout du compte, tout s'arrête, on engage avec passage, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le cadre de ces recherches opérationnelles, avoir une collaboration réelle avec les États, les ministres de la Santé, je ne sais pas moi, les États, pour que les résultats de nos travaux de recherche opérationnelle soient vraiment valorisés. Parce qu'au bout du compte, nous sommes ici, entre nous experts, nous parlons et nous écoutons nous-mêmes. Aucun politicien n'est là, aucun décideur n'est là. Soit ils sont avec nous, Soit nous mettons en place un groupe d'interaction qui sert donc de pont entre nous qui sommes là et eux qui ne peuvent pas être là. Ainsi, au bout du compte, un travail de recherche qui est fait aboutit réellement à quelque chose. La deuxième préoccupation, c'est pour Seydou, concernant les 44 femmes qu'il a eu à observer. Bon, peut-être ça aurait été intéressant de savoir les 44 décès représentent quoi en termes de tous les accouchements de la formation sanitaire de la période. Parce que les 44 peuvent être comme énormes, comme ça peut être comme minime. Et toujours à lui, il a dit qu'il a eu à analyser 8 cas. Et l'analyse de ces 8 cas était basée sur la pertinence du cas. Alors là, je voudrais dire que derrière chaque femme qui meurt de suite d'une grossesse, il y a une histoire, toujours. Et donc, en fait, tous les cas sont pertinents. Et c'est pour ça que je crois que là, ça pose un peu de problème de sélection. Et il dit aussi, dans cet hôpital, il y a 15 gynécologues, 26 sages-femmes. Mais curieusement, pendant 2 jours, une femme traîne là, aucun gynécologue n'a mis pied en salle d'accouchement. Je dirais même aucune sage-femme. Est-ce qu'il y a eu une rétroalimentation des résultats de votre travail de recherche pour que ces gens-là se rendent compte effectivement de ce que vous avez pu observer et l'intégration réelle des résultats de recherche dans l'amélioration de la pratique hospitalière? Merci.
Oui, moi, c'était pour rebondir sur la réponse que Yannick avait faite au premier groupe de questions, quand il précisait qu'effectivement, ce qui attendrait de l'anthropologie ou des anthropologues des recettes serait déçu ou pourrait même se faire rouler dans la farine si c'était ce qu'on pouvait leur promettre. Il y a quelque chose, moi, qui me préoccupe quand on dit, et je crois que c'est important quand même de le faire et de le penser, qu'il faut introduire dans les cursus, dans les curricula des sages-femmes, des infirmières et des professionnels de santé et des médecins, de l'anthropologie. Mais j'ai envie de dire, quelle anthropologie? Qu'attend-on de l'anthropologie? Quels en sont les objectifs? Parce qu'il ne s'agit pas là de donner des techniques ou des méthodes de recherche, mais l'anthropologie qui va pouvoir servir sur ces terrains, ce n'est pas l'acquisition d'une technique, mais c'est l'acquisition d'une posture. Et cette notion de posture, comment va-t-elle s'acquérir dans la capacité de se décentrer de ses certitudes, de regarder l'autre? Donc déjà, il y a des choses qui peuvent... L'autre, quel qu'il soit, que ce soit l'autre proche ou l'autre lointain. Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on va introduire de l'anthropologie ou de l'histoire de l'anthropologie ou des méthodes d'anthropologie que ça va pouvoir faire acquérir ces postures. Et c'est, à mon avis, c'est extrêmement important parce que là, il pourrait y avoir une déception également et quelque chose qui ne se ferait pas. Et à côté de l'anthropologie, pour tout ce qui est accompagnement des pratiques, il y a aussi d'autres sciences humaines qui peuvent intervenir, de l'ordre de la psychologie, de l'animation de groupe. Et je crois que ça me paraît important de dire qu'attend-on et qu'entend-on par anthropologie dans les études.
Well, thank you very much. I just want to make... I have a number of observations which I would unfold one by one. But on this particular occasion, I would like to talk about the characteristics of the patients that had problems at the service delivery points. For example, the ones that was abandoned by the care providers. We'd like to know the characteristics, because my hypothesis is that these are women who are elder, uneducated, or who are also poor. So my major hypothesis is that the major determinants of the type of behavior or the type of services that patients get is their level of education and whether or not they are poor or whether or not they are from the particular social class. Because some of the findings that we get in Nigeria is that women who die are women who are either poor or women who have no voice, who have no education, who have never had gone to school, or who have primary level education. By contrast, in the cohort of women that we studied in Nigeria, none of them none of those who had tertiary education died. So if you've been to university in Nigeria, you hardly die from maternal mortality. So I believe that the reason that these women were poorly attended to in the health centers is because they are poor, they are marginalized, and they're also not educated. Because even in the developed country, one of the safety nets for women is to be able to have a voice to argue for themselves. If a woman is well educated and she's advantaged, nobody will discriminate against her in a health facility. So I would like us to explore this further. The two problems that are associated with women's mortality, whether it be at the tertiary level, is poverty and lack of education, or ignorance or illiteracy. Those are the two issues we must explore further. Because if women have the correct information, they will seek the appropriate services. And when they get to those services, if they encounter any difficulty, they will argue for their rights. And I actually have a feeling that health providers will respect people who are well-educated and who know their rights. I can tell you that I'm a gynecologist. I can tell you that no gynecologist or doctor will discriminate against somebody who knows her right or his right. And I can tell you that, as a matter of fact, such people are likely to be attended to first. And that if you have a poor person coming to the clinic and a richer person coming to the clinic, there's a tendency for health providers, doctors and nurses, to attend to the one who is better educated first and leave out the one who is not educated. So we should focus on this. The two problems that drive maternal mortality in Africa is poverty, ignorance, and illiteracy. Governments, those are the areas we must explore. How do they treat people according to their social status? That's what we should be asking ourselves. And my hypothesis is that health workers tend to look down on people who are from lower class, and those are issues that I think are very important, because these are the issues that we can feed back on policy. We could have government to provide safety nets to those who are poor, and then to provide the right kind of education. And that on a long-term basis, at the end of the day, what reduced maternal mortality in Europe and America is women's education, men's education. And it may not happen now in Africa, but we must get governments to begin to focus on women's education as a long-term strategy. At the short term, they should do safety net to ensure that women have the right type of information, public health education, so that they can go to services and access those services accurately. So that's just my preliminary observation at this stage. I will talk about it later on.
Ma question s'adresse à Jaffrey, parce qu'en fait, il a parlé d'audit anthropologique. En fait, c'est que de plus en plus, maintenant, il y a une culture d'audit, hein, audit des décès maternels, audit des bébelles qui est en train maintenant de se dérouler, de se tendre un peu, et qui est d'ailleurs fortement encouragé par l'OMS, quoi. Mais comment est-ce qu'on peut lier les audits qui sont, la culture maintenant d'audit qui est en train de s'installer, comment on peut introduire l'aspect anthropologique, hein, dans ces audits-là, quoi? C'est ma question. Merci beaucoup.
Je voudrais dire que nous, gynécologues, quand nous suivons les présentations, que ce soit du jeune, que ce soit de Yannick, que ce soit de la dame, en fait, aujourd'hui, là où nous sommes, nous nous retrouvons parfaitement. Et des fois même, nous nous demandons qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans. Parce que la situation, elle est connue. Elle est connue de ceux qui sont dedans. Elle est connue de ceux qui sont même à l'extérieur. Maintenant, ma question fondamentale, c'est peut-être à Yannick, ou bien à tous. Quand vous rentrez dans le système, vous êtes avec les prestataires, vous découvrez. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous, ou moi, je veux savoir, qu'est-ce qui est fait après? Est-ce que, je ne sais pas, ces résultats que vous nous communiquez, est-ce que c'est, je ne sais pas, il y a eu des assises? Qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, après avoir eu l'information sur les conclusions de vos enquêtes, est-ce que l'hôpital a pu changer quelque chose? Puisque nous tous savons que les éléments issus de ces résultats ne sont que la conséquence d'un ensemble d'éléments environnementaux, autre chose qui amène le personnel médical à cette situation. On arrive à l'hôpital et des fois, le thermomètre, ça n'existe pas. L'appareil à tension, le BABA, on ne l'a pas. Et on peut rester pendant une semaine, un mois. Après, quand l'appareil à tension vient dans le service, on a l'impression que l'appareil à tension n'est pas utile, puisqu'on a vécu sans appareil à tension toute une journée, toute une semaine, tout un mois. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a pu améliorer tout cela? Merci.
Merci beaucoup. Je pense que, en tant que présidente, je me dois quand même de poser à mes intervenants une question. Je ne vais pas juste me contenter de distribuer la parole. Et tout simplement pour appuyer la dernière intervention, la question que je voudrais, ma préoccupation, c'est effectivement, est-ce que toutes les études qui ont été menées, est-ce que vous avez échangé des résultats avec les personnes qui ont été effectivement pas les femmes qui sont décédées, mais les personnes avec qui vous avez eu des entretiens, donc les familles de ces femmes, est-ce que vous leur avez apporté effectivement le rendu de vos études, le personnel de santé aussi qui a été inclus dans les études, et quelle a été leur réaction après? Ça, c'est une des préoccupations. La seconde, c'est, j'ai envie de dire, je ne m'y connais pas vraiment en anthropologie, et j'observe, j'essaie d'apprendre. Dans vos méthodologies, il y a l'observation et les différents entretiens. Et je pense que vous avez, pour la plupart des études que nous avons écoutées hier, vous avez effectivement observé ces différentes méthodologies. Donc, ce que moi, je voudrais comprendre, quand vous entrez dans une salle, quand vous prenez l'observation, vous observez une sage-femme ou bien un médecin qui fait des gestes, et ça particulièrement à Patricia, c'est pour intervenir. En état réel, comment est-ce qu'elle fait ses gestes? Vous observez pendant toute la journée cette sage-femme. Et je suppose qu'après, vous avez une occasion de vous entretenir avec cette sage-femme. Donc, cette sachant bien ce médecin, quelle est l'attitude? Y a-t-il une différence entre quand elle est en train de travailler, quand vous observez ce qu'elle fait, et quand vous vous entretenez avec elle? Je suppose que quand elle est assise et que vous passez à l'entretien, elle est plus calme. Je ne sais pas. Je voudrais comprendre comment est-ce que vous analysez ce changement d'attitude ou de comportement quand on est sur l'urgence et quand on est calme, parce que les réponses qu'elle vous donnera quand vous l'observez ne seront pas les mêmes qu'elle vous donnera quand vous allez passer à l'entretien, quand elle sera effectivement posée. En fait, je voudrais comprendre effectivement cette attitude, parce que bon, pourquoi je le dis, parce que pour justifier peut-être même l'exemple que j'ai donné hier, quand on est dans l'action, on a forcément une autre attitude, et quand on est calme, on a une autre attitude. Est-ce que ça a effectivement un impact sur les gestes que nous portons en tant que personnel de santé, en tant qu'obstétricien, etc. Donc, je vous passe la parole pour répondre effectivement aux questions qui vous ont été adressées. Yannick?
Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais bien évidemment pas répondre à toutes les questions une par une, parce que ça ferait un petit peu discontinu. Je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça dans une réponse commune à tous, enfin en tout cas une tentative de réponse commune. La première chose qui me semble que peut-être qu'on a essayé de montrer tous depuis peut-être deux jours, c'est que très souvent dans tous ces programmes qui sont mis en place, on dit voilà, il y a un programme et puis on va faire une analyse de contexte. Et très souvent on dit aux anthropologues, dites-nous un peu ce qu'est le contexte. Alors je crois que ce qu'on montre très bien tous, là, et c'est très simple à faire, c'est que cette dichotomie, cette division entre le programme et le contexte est quelque chose qui n'a strictement aucune pertinence scientifique ou méthodologique. Le contexte, c'est quoi? C'est la façon dont les gens vivent, c'est la façon dont ils parlent, c'est les valeurs qu'ils ont, c'est leurs problèmes de logement, leurs problèmes économiques, etc. Donc le contexte, c'est simplement une façon extrêmement paresseuse de dire on va faire comme si on pouvait percevoir le monde depuis le programme. L'inverse est bien évidemment le plus sérieux. C'est-à-dire, ça veut dire commencer à se poser la question comment vivent ces populations et comment intégrer à l'intérieur nos préoccupations sanitaires. Donc je pense qu'il faut, là ce qu'on essaye de faire, c'est inverser un peu cette chose-là et en tout cas maintenant obliger tout le monde à parler du contexte avec des guillemets, en se disant c'est pas un concept, c'est un fourre-tout. Et c'est un fourre-tout qui est sa seule validité, c'est que ça montre la preuve, c'est la preuve de notre paresse intellectuelle. La deuxième chose qu'il me semble qui est tout à fait important, c'est bien évidemment à l'intérieur de ces façons dont les populations construisent leur vie et rentrent à l'intérieur des systèmes de santé, il y a des questions économiques. Alors bien évidemment, les femmes pauvres n'ont pas d'existence à l'intérieur des systèmes de santé. Elles n'ont pas d'existence parce que très souvent, elles n'ont pas de relais familiaux, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à des classes défavorisées, donc elles n'ont pas de frères ou de parents médecins ou infirmiers. Elles ont, dans certains cas, elles n'ont pas de quoi corrompre avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire en fait, elles n'ont pas de quoi acquérir la possibilité d'être soignées de manière privatisée dans un espace public. Donc elles n'ont pas ça, et elles n'ont pas non plus de contrepartie. Par exemple, avec le système de recouvrement des coûts, quand il s'agissait d'essayer de demander aux riches de payer pour que les pauvres soient mieux nantis, ben, ce qui se passait, c'est que les riches avaient toujours une monnaie d'échange. C'est-à-dire, quand on est douanier, on sait très bien que quand on va à l'hôpital, on dit au médecin « tu me soignes gratuitement, mais le jour où il faudra sortir la voiture du port, je m'en occuperai ». Donc les gens pauvres, c'est des gens qui n'ont pas ces contreparties. Donc bien évidemment, ces questions économiques jouent. Mais ce qui me semble extrêmement intéressant à voir aussi, c'est que ça joue, mais sur un canevas qui est un canevas similaire. C'est-à-dire qu'une femme riche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche quelqu'un à qui elle va se confier. Mais bien évidemment, comme son système ou son réseau social est plus adéquat à la situation, elle va avoir comme personne à qui se confier un copain, un médecin ou quelqu'un comme ça. Et donc elle va se confier à quelqu'un qui sera pertinent pour cette situation. Le problème, c'est que la femme pauvre, elle va faire exactement la même chose, elle va se confier. Mais comme dans son réseau social, il n'y a pas d'obstétricien, elle va se confier à une couturière. Et disons, alors la question de la pauvreté, elle est extrêmement importante, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a cette question de la pauvreté qu'il faut séparé quand même de la question de l'hôpital qui ne fonctionne pas comme un système expert. Je pense que les deux questions sont liées, mais qu'elles ne sont pas tout à fait similaires. Et à l'intérieur, bien évidemment, de cette question-là, il y a la question des langues. Alors, la question des langues, elle, c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, c'est un marqueur d'inégalité, parce qu'on sait que les gens qui sont passés par l'école vont s'exprimer en anglais ou en français. La question, c'est que, quand même, en Afrique, il y a 800 langues, dont certaines qui sont des langues extrêmement importantes, comme le Haoussa ou les langues mandingues, etc. Enfin, en nombre, mais toutes témoignent de la même qualité humaine. Mais le problème, c'est que cette question de langue, qui est si importante dans la pratique médicale, puisque les médecins passent leur vie à traduire des entités médicales dans des langages populaires qui, bien évidemment, ne sont pas articulés de la même manière. Cette question des langues, qui est centrale pour la pratique médicale, n'est pas enseignée dans les facs de médecine, ni dans les écoles d'infirmiers ou dans les écoles de sages-femmes. Ce n'est pas pris en charge. C'est complètement absurde de penser qu'on va préparer des gens à la pratique sans leur poser la question de comment tu vas traduire tes termes dans des langues locales qui sont utilisées par tout le monde, y compris par les médecins quand ils sont dans la cour de récréation. Et cette question qui est centrale dans le passage d'un savoir technique à des savoirs et à des conceptions populaires n'est pas du tout prise en charge. Alors après, on embête les populations avec 2-3 slogans que personne ne comprend, alors qu'au moment où les gens sont dans la consultation et sont éventuellement attentifs à ce qu'on va leur dire sur leurs questions, on n'en parle pas. Dernier point, c'est peut-être sur cette question des audits anthropologiques. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, ce que font les anthropologues, c'est qu'ils disent ce que tout le monde sait. La question, c'est que tout le monde ne sait pas que ça peut faire l'objet d'un savoir. C'est-à-dire que ça peut être que ces petits trucs que l'on voit en permanence, je donne un petit billet pour qu'on s'occupe de moi, il faut que je paye à la porte parce qu'autrement je ne pourrais pas passer. Un infirmier a mis une barrière dans un couloir et tant qu'on ne peut pas payer la barrière, on ne passera pas en consultation. etc. Les, on fait comme si c'était justement du contexte, c'est-à-dire quelque chose de rien. Alors que c'est ça qui détermine les conduites. Exactement ce que, comme montrait Drabeau, par exemple, ben, si on négocie le prix de la consultation avec son mari, c'est ça qui va pouvoir gêner. Tout le monde le sait, cette chose-là. Mais il faut le construire comme étant un savoir, et un savoir utilisable dans la pratique. Et je pense que les audits anthropologiques, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, c'est peut-être d'aider à construire cette réflexivité sur la pratique. Ce que disait Christine, c'est-à-dire, on construit dans l'anthropologie, on construit toujours l'autre comme étant différent. Mais même moi, si j'essaye de voir mes conduites, en tant qu'anthropologue, je vais me regarder comme si j'étais étranger à moi-même. Donc ce qu'il faut, c'est regarder les choses en les interrogeant pour essayer de comprendre ce que l'on fait. Il suffit d'emmener, moi j'ai fait ça en Guinée par exemple, d'emmener des pédiatres, regarder comment se faisaient les injections dans leur service. Ben, eux qui prescrivaient des injections en permanence, ils se sont rendus compte que par exemple les infirmiers ne réglaient pas le débit des perfusions. Vous voyez cette chose-là par exemple, comme on pourrait dire, ils n'étaient pas sans le savoir. Et pourtant, ils continuaient à travailler. Mais quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait tuer des enfants grâce à leur ordonnance, ils ont commencé quand même à se poser des questions. Et je pense que c'est ça, à ça que peut-être on peut vous servir, et c'est peut-être, disons, cette façon dont on peut vous aider en décalant un tout petit peu le regard. Dans une autre étude que j'ai faite, par exemple, sur l'hygiène hospitalière, j'avais demandé aux étudiants de regarder un plateau. Vous savez, les haricots sur lesquels on met les seringues, etc. Et donc, il y avait une observation, je ne sais plus de combien de temps, mais disons, pendant 3 heures ou 4 heures, il fallait regarder un haricot. Et bien, c'est extrêmement intéressant d'observer un haricot, parce que quand il arrive, il est relativement nettoyé. Et puis après, quelqu'un pose une seringue. Et puis après, on le ramène, on fait une injection. Et puis on le ramène à sa place. Celui qui arrive après, il croit que c'est propre. Donc il reprend le haricot souillé. Il le ramène. Et puis éventuellement, quelqu'un va poser des arachides. Et puis quelqu'un après va manger des arachides. Et à la fin de la journée, on aura un haricot complètement pollué avec des arachides, des germes divers. Et vous voyez, penser la structure de santé ou penser l'hygiène hospitalière à partir de la vie d'un haricot, eh bien, c'est quelque chose qui va déformer le regard et qui va permettre de se rendre compte d'un certain nombre de choses. En Guinée, actuellement, on travaille sur les perfusions. Donc on fait que des perfusions, et on regarde ce que ça donne. Et vous voyez, je pense que c'est en décalant un petit peu ces choses-là que l'on peut obtenir des résultats. Et dernière peut-être réponse, c'est sur les personnels de santé. Je crois que, et on le voit tout le temps, et les personnels de santé sont comme nous, c'est-à-dire on a tous l'impression d'avoir une seule identité. Mais en même temps, moi, quand je vous parle là, par exemple, j'ai une chemise. Si j'arrive peut-être chez mon logeur, bon, éventuellement, je vais enlever ma chemise. Et si je parle avec mes enfants, je ne vais pas leur parler sur le ton que j'utilise pour vous parler. Donc ça veut dire que j'ai une identité plurielle et que mon identité est variable selon les moments. Mais il faut être clair. Je pense que ce qu'a apporté en Afrique un certain nombre de programmes, c'est aussi une espèce de coupure, pas d'électricité, mais une espèce de coupure d'identité. Et si je prends un exemple très simple concernant, par exemple, la corruption. Quand je vois une sage-femme qui demande à une femme de lui donner de l'argent pour faire un accouchement ou pour lui donner de l'argent. Vous voyez, ce qui est extrêmement... Si je regarde ça uniquement du point de vue, disons, d'un audit de type médical, je vais dire « l'acte n'est pas fait ». Si je regarde la sage-femme dans la continuité de sa vie, qu'est-ce qui se passe? Elle a ses enfants dans une école privée. Elle a besoin de leur donner à manger. Et donc, il est clair que quand on veut être une femme ou un homme honnête, on a intérêt à prendre dans l'argent des projets. Et vous voyez, le problème, c'est pas de la malhonnêteté, c'est que certaines situations exigent d'avoir des existences plurielles qui sont dissymétriques. Alors que dans d'autres situations comme la mienne, par exemple, moi je suis fonctionnaire français, j'ai un salaire, et comme je suis fonctionnaire français et j'ai un salaire, j'ai le droit d'être honnête. C'est même un devoir. Mais si j'étais un personnel africain et que j'ai le choix entre soigner mes enfants ou soigner des inconnus, il est clair que je soignerais mes enfants. Et donc le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement d'un service de santé, et c'est là encore que les audits anthropologiques peuvent apporter quelque chose de plus, sans considérer l'entier de la vie des personnels de santé. Et c'est uniquement quand on reconstruit la chaîne des obligations de ces personnels de santé qu'on peut commencer à comprendre leur conduite, et y compris leur conduite professionnelle. Voilà, c'est peut-être à ça que vous pouvez nous utiliser, et c'est sur ces points-là qu'on peut peut-être vous apporter un regard un petit peu différent.
Merci Yannick. Je vais passer la parole à Seydou et Fatou.
Ok, merci. Donc, il y avait une question par rapport à la taille des décès. Donc, j'avais parlé tantôt de 48 cas de décès recensés. Il faut dire que notre objectif était de faire une étude qualitative. Donc, nous n'avons pas voulu tenir compte donc, du rapport entre le taux d'accouchement dans cette maternité et le nombre de décès. Et par rapport au choix des cas, nous avons parlé de pertinence théorique du cas, tout simplement parce que dans ces services, tous les cas de décès n'étaient pas liés à de grossesses. Et donc, lorsque les soignants nous informaient d'un décès, nous prenions le soin de savoir si c'était en rapport avec une grossesse. Je parle par exemple des cas des fibromes. C'est pourquoi nous avons parlé de la pertinence théorique du cas. Et sinon, les 8 cas que nous avons choisis, pour être franc, ces cas ont été choisis par rapport à leur accessibilité à l'enquête. Étant donné que c'était une étude dans un cadre académique, nous avons jugé bon de ne pas aller au-delà de 150 km, parce qu'aller au-delà de 150 km, ça faisait encore plus de transport. Et nous avons décidé de prendre en compte les cas pour lesquels nous pouvions localiser la famille, étant donné que nous voulions faire des entretiens à domicile avec eux. Et donc, c'est cette sélection qui nous a permis d'avoir ces 8 cas. Et lorsque nous les avons analysés, nous nous sommes rendus compte que ces 8 cas, c'est vrai, en termes quantitatifs, c'est petit, mais la variabilité des situations nous a montré qu'en tout cas, derrière chaque cas de décès maternel, on pouvait apprendre beaucoup. D'autant plus qu'il y avait des similitudes et des ressemblances et des dissemblances différentes dans ces différents cas-là. Pour la dame qui a fait 2 jours sans soins, il faut dire que... Donc ça, je vais directement à la seconde question. Pour cette dame, la notion de pauvreté, en tout cas pour ma petite expérience que j'ai menée là-bas, je pense que lors d'une étude anthropologique ou sociologique, ou lors d'une étude qualitative quelconque, c'est une notion à prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserve et de souplesse. Parce que nous avons vécu certaines situations où l'on pensait que certaines femmes hospitalisées n'avaient pas de moyens. Je prends l'exemple de cette jeune fille qui était hospitalisée, qui était au bloc opératoire, et on remettait des ordonnances à son accompagnante qui était sa mère, qui les entassait chaque fois. Et à un moment donné, les soignants ont appelé le service social pour leur dire qu'il y a une jeune femme qui n'arrive pas à honorer les ordonnances de sa fille. Et ils ont fait venir la maman à leur niveau. On dit, mais quelle est votre relation avec la fille? Elle leur a dit que c'était sa fille. Et le mari, où est-il? Il est resté au village parce qu'il devrait s'occuper des troupeaux et nos enfants sont petits. Mais en venant ici, est-ce qu'il ne vous a pas donné de l'argent? Si, il m'a donné de l'argent. Combien? 50 000 francs. Mais pourquoi vous ne payez pas les médicaments? Et elle leur a dit qu'elle ne savait pas que les papiers qu'on lui donnait, c'était des ordonnances à honorer. Donc voici une situation qui montre que ne pas pouvoir honorer, faire face à des dépenses liées à la santé, ne traduit pas forcément, ne prouve pas forcément que les patients sont pauvres. Et une autre situation encore, c'est un monsieur qui était avec sa femme, et à chaque fois, il venait me voir, « Ah, monsieur Seydou, est-ce que vous pouvez aller voir les soignants? Parce que depuis 3 jours, je suis là, ma femme est malade, je veux qu'il fasse une photo. » Il parlait d'échographie, parce qu'on m'a dit que l'enfant ne bouge plus, je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et les soignants m'ont dit que si c'est ce monsieur-là, ce n'est pas la peine, parce qu'il n'a même pas l'argent de faire une échographie, parce que la femme a été hospitalisée depuis plus d'une semaine et il ne payait pas de médicaments. Et chaque jour, je croisais ce monsieur chez des bouchers parce qu'il payait la viande. Chaque soir, il payait de la viande à 2000 francs pour sa femme, que parce qu'un soignant lui a dit que le foie, donc la viande, faisait augmenter le sang. Et donc, lui, il préfère payer cette viande-là parce que c'est concret. Donc, les papiers, les ordonnances, là, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Donc, voici beaucoup de situations qui montrent que la notion de pauvreté dans un contexte sanitaire est vraiment difficile. Mais pour cette dame qui a fait 2 jours sans soins, elle a fait 2 jours sans soins tout simplement parce qu'il n'y avait pas de dossier. Ses dossiers étaient égarés Et le médecin qui la consultait disait qu'il ne savait pas pourquoi on lui avait dit de ne pas manger et boire. Parce que lorsqu'elle était rentrée, on lui disait qu'elle devrait s'abstenir de boire et de manger. Et donc, pendant l'interrogatoire, le médecin a su cela. Et il a dit, non, je ne peux rien faire parce que je ne sais pas pourquoi on lui a dit de ne pas boire et manger. Et donc, cela nous a mené à nous intéresser un peu à la question de l'égarement des dossiers. Et donc, nous avons été assez vigilants. Nous avons participé à certaines situations. Et là, ça rejoint encore une autre question, la question de la communication, de la langue et des barrières linguistiques. Et là, c'est l'histoire d'une femme qui est venue également d'une localité, d'un milieu rural du Burkina, qui ne comprenait aucune langue, excepté sa langue maternelle. Et donc, pour constituer son dossier, les soignants étaient obligés de communiquer par mimique. On faisait des gestes. Et ce jour-là, j'ai appris que dans sa langue, pour dire que ça fait mal, on disait « Ikma ». Et son mari, son accompagnant, était un homme qui ne pouvait pas avoir accès à la salle, mais qui comprenait français. Et moi, j'étais chargé donc de recueillir certaines informations auprès de son mari pour les transmettre aux soignants. Et donc, son dossier avait été constitué avec beaucoup d'informations, de données manquantes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame a accouché après d'un enfant prématuré et elle avait besoin de transfusion sanguine. Et pendant ce temps, on avait besoin du dossier médical pour savoir, pour connaître son groupe sanguin afin de lui donner le sang qui lui correspondait. On a cherché le dossier en vain. Le dossier était introuvable. Le registre a été consulté. La dame n'a pas été enregistrée. Et quelques secondes après, nous avons retrouvé ce dossier déchiré dans une poubelle. Pourquoi? Parce que généralement au staff, lors du staff, les dossiers sont revus par les supérieurs hiérarchiques et certains soignants se faisaient rabrouiller par ces supérieurs-là. Et donc, pour éviter de se faire tourner en ridicule, donc certains dossiers sont camouflés parce que jugés incomplets ou incohérents. Et nous avons vu certains soignants corriger des dossiers, réviser des dossiers avant de les amener au staff sans les ramener à l'endroit où ils les ont pris. Merci. Donc,
je pense que les compléments apportés par Seydou et Yannick sont déjà bien développés. Et je vais juste faire quelques commentaires sur deux petits points. Sur la question relative à la part de l'anthropologie dans les audits, je pense que la question a été vraiment bien expliquée par Yannick. Et à mon avis, si part il y a de l'anthropologue sur cette affaire des audits, moi en tout cas, personnellement, l'expérience que j'en ai dans notre implication dans les audits au Burkina, dans cet hôpital de district. Et il s'est agi d'un moment où il y avait un médecin qui venait d'arriver dans une maternité de référence et qui décide d'organiser des audits, au même moment qu'il y avait le projet Akwasu. Et on se retrouve dans une situation avec ce que Yannick a décrit sous le cycle de caviardage des informations, où on se retrouve avec des dossiers finalement où il n'y avait rien. Et des collègues donc de l'Institut de médecine tropicale qui s'occupaient de la partie santé publique et qui s'étaient investis dans cette partie audite se retrouvent avec des dossiers quasiment vides. Et nous autres, on était là à mener nos entretiens, à vouloir faire des rencontres usagers, machin et tout ça. Et puis tac, on nous dit, bon voilà, on veut faire quelque chose, mais nous n'avons pas assez de matière pour le faire. Donc comment on peut le faire? Et voilà, ce moment, c'est un moment où nous, on a essayé d'aller à domicile pour les cas qui ont été sélectionnés, donc au domicile des femmes où on a fait des entretiens, mené des entretiens. Et l'idée, c'était de restituer, au moins pour compléter, pour que cette restitution d'entretien apparaisse comme un complément à la rupture de l'écriture. Il y avait un problème d'écriture de la part des, en tout cas d'une catégorie de soignants, les sages-femmes notamment, et que par l'écoute, en tout cas d'une parole rapportée, qu'il puisse y avoir une, c'est ambitieux de dire ça, une sensibilité à ce qui se passe autour d'une situation qui a été prise en main à un moment donné dans la maternité. Voilà ce que la femme nous a dit, voilà ce qui s'est passé pendant la grossesse, voilà comment elle a ressenti les choses. Et d'une autre part, on a aussi à un moment donné amené à le personnel a émis l'idée, certaines personnes voulaient nous suivre, nous anthropologues, parce que je pense aussi qu'il y avait une suspicion par rapport aux paroles rapportées des domiciles. Nous disaient, bon, nous on veut découvrir, on veut aller voir avec vous, on veut aller écouter les femmes, les entretiens. Et bon, l'idée c'était pas du tout de faire des personnels de santé des anthropologues, mais aussi encore d'élargir l'écoute. Mais ça a été des moments où il y avait des apports complémentaires dans les échanges, du genre, je me souviens un moment où la sage-femme, en plein entretien, alors que la femme disait, bon, voilà, moi j'ai écouté les personnels de santé, ils m'ont dit de ne pas me laver, donc ça fait depuis que je suis sortie, je ne me suis pas lavée. Et la sage-femme qui bondit, qui dit, mais qui vous a dit ça? Et elle dit, bon, oui, on m'a dit ça. Mais elle avait simplement compris, elle, la sage-femme s'était exprimée en langue morée, vraiment pour lui dire, bon, elle n'avait pas dit le mot cru, tu fais pas ta toilette intime. Et elle avait compris qu'il ne fallait vraiment pas se laver et on avait compris qu'il y avait un problème manifeste au moment de l'entretien avec les nuisances olfactives. Des petites choses comme ça. Et sur la question de l'éducation et de sa mise en rapport avec l'ignorance, je pense que c'est quelque chose aussi que Yannick a développé. Et à travers les dossiers d'audits, en tout cas, on n'a pas fait de statistiques là-dessus, mais on s'est rendu compte de quelque chose, que finalement, il y avait une attention particulière aux gens, à ceux qui avaient été confiés, à des gens qui étaient des femmes dites éduquées, à des femmes dites scolarisées, et que finalement, les NIRMIS, une bonne partie, en tout cas, des cas de NIRMIS, étaient aussi des femmes qui avaient été admises, qui avaient été confiées à des gens. Et on se disait avec nos collègues médecins, il faut arriver un jour à faire la part des choses. Finalement, on dit que ceux qui ne connaissent pas du monde sont mal considérés, mais quand tu connais du monde, ça peut tourner mal aussi. Donc on ne passe pas la main, on veut tout faire à l'extrême et puis ça finit par par se passer mal. Et aussi cette question de langue, de autant on apprend, je pense dans les standards, à donner des discours théoriques, des pratiques, on dit pas comment faire en fait dans un pays où il y a plus de 60 langues, comment faire où il y a la mobilité qui est quand même là aussi, comment faire pour passer, pour communiquer avec l'autre. Et on voit bien dans une enquête en cours que je réalise actuellement, ou qui m'amène à passer du temps dans les consultations prénatales pour décrypter ce qui se passe pendant les causeries, les fameuses causeries de groupe, on voit bien comment c'est, on va au pas de course, et puis on voit bien aussi comment c'est perçu comme une contrainte. C'est vraiment pas du jument foutisme de la part du personnel, hein. Ils le disent, ils disent, mais on est mal avec ça parce qu'on a envie de passer des choses et on se retrouve avec des femmes qui ne comprennent pas notre langage et que faire avec ça. Je rebondis, dernier point, sur la question ou la remarque de, finalement, ces programmes s'empilent, et puis, qu'est-ce qu'il y a? À quoi sous l'idée avec les rencontres usagers prestataires? Le gros mot objectif là, c'était oui, on va arriver, il faut qu'on arrive. Autant je pense, Yannick, qu'il y a suspicion par rapport au contexte, méfiance par rapport à ces affaires de contexte, et aussi les objectifs sont plaqués comme ça. Et c'était on devrait arriver à faire en sorte qu'il y ait une charte du patient. D'abord, c'est quoi la charte du patient? Alors, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la charte du patient, elle n'est pas là. Bon, quid, on a pris un tout petit peu de la peine pour aller chercher les femmes dans les associations. L'idée que, justement, que ce soit des relais par rapport aux plaidoyers, aux politiques, par rapport à leur propre devoir à susciter l'accountabilité des personnels. Mais jusque-là, rien. On est passé à passage de façon très rapide, que dalle. Excusez-moi de ce mot assez... Donc moi, personnellement, je suis arrivée à un moment où je me dis, ah, il y a un chaînon vraiment manquant. Il y a quelque chose qui nous interpelle, qui, moi, m'interpelle, en tout cas dans ma pratique. Il faut changer de façon de faire, moi, en tant qu'anthropologue. Et dans un programme que je dis multidisciplinaire, c'est à défaut de mots, je mets multidisciplinaire, en tout cas sur la PTME, où on doit travailler avec santé publique, économistes, anthropo, où j'ai dit non, il ne faut pas qu'on se mette comme ça sur la bicyclette à pédaler et tout ça, à dire objectif, contexte, machin et tout ça. Il faut qu'on s'asseye ensemble avant même qu'il y ait l'argent. Avant, avec les gens pour dire, bon voilà, qu'est-ce que nous voulons faire? Et les gens, c'est pour moi ceux qui décident aussi, ceux qui sont au ministère de la Santé, ceux qui sont dans le ministère de l'Action sociale, c'est ce que nous avons fait. Ce petit pari, c'est une petite chose. On a rassemblé tout le monde. Il n'y avait pas d'argent. Donc on m'a dit, oui, les gens ne vont pas venir parce qu'il n'y a pas de perdième. Les gens sont venus, on a passé une journée ensemble à dire, bon voilà, nous on a ces idées-là, comment on fait finalement? Et ça va nous amener où? Combien de temps on va le faire? Comment? Quelles sont les modalités pratiques de mise en application de ça? On est arrivé à quelque chose qu'on a. Je ne dis pas que ça nous exemptera de tout, mais au moins, c'est une façon aussi de porter un tout petit peu un regard d'autocritique par rapport à ce que nous faisons. Voilà, j'ai conclu. Merci.
En fait, je voulais conclure pour laisser la place à la deuxième session. En tout cas, je voudrais remercier toute l'équipe pour les brillantes présentations et les réponses assez fournies qu'ils nous ont données. Nous allons effectivement retenir ici que dans un contexte de multidisciplinarité, je pense que nous devons marcher maintenant ensemble avec les anthropologues, mais effectivement pas seulement pour observer, mais pour passer à des actions concrètes. Comprendre effectivement le personnel de santé, leurs gestes, comment faire pour améliorer effectivement ces gestes afin d'améliorer la qualité des soins. Comme parlait quelqu'un, d'intégrer effectivement la formation anthropologique dans les curricula de base, mais comme disait quelqu'un d'autre, mais quelle anthropologie on va effectivement intégrer dans les curricula de base. Ça peut être aussi une piste de réflexion. Nous avons aussi parlé du rendu des résultats. Est-ce que ce rendu des résultats se fait seulement à l'endroit des personnes qui ont été interrogées? Je pense que hier, il y a quelqu'un, un des présidents de la journée d'hier, qui disait effectivement, qui partageait son expérience, qu'il avait fait du plaidoyer. Il était allé faire une présentation sur la mortalité maternelle au président de son pays. Et je pense que ces genres de travaux, nous devons effectivement les rendre, les publier devant effectivement ces politiques, parce que parfois, quand vous venez avec une stratégie, bon, ils signent des traités, mais en réalité, parfois, ils ne comprennent pas l'importance de la chose. Mais si on leur présente ce genre d'études, je pense qu'ils seront plus ou moins sensibilisés, parce que ce sont eux, finalement, qui prennent les décisions pour rendre effectivement les politiques applicables, même si les personnels de santé doivent les mettre en pratique. Mais à ce niveau aussi, peut-être que les anthropologues pourraient nous aider à mettre un système d'auto-évaluation. En fait, il faut que le personnel de santé ou le prestataire s'auto-évalue. Est-ce que les actes... Tout nous ramène à penser à la réglementation. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que quand je vais dans ma salle d'accouchement, est-ce qu'il y a le terme accountability? Est-ce que j'ai l'obligation de résultat? Est-ce que je serai évaluée? Si nous avions tous ces concepts, effectivement, peut-être dans nos intelligences, mais dans nos mémoires, peut-être qu'on ferait mieux. Parce que bon, je suis sage-femme depuis 4 ans, c'est vrai. Quelqu'un m'a demandé, ah, vous êtes sage-femme depuis 17 ans, combien d'accouchements vous avez fait? Rien que cette question, je suis sûre que si on la pose à un médecin, c'est pas, ou à une sage-femme, même à un infirmier, c'est pas évident qu'on se souvienne, on dira beaucoup, mais on ne dira pas combien exactement. Or, si on apprend à s'auto-évaluer et puis voir, en 5 ans, j'ai fait 10 accouchements, dans les 10 accouchements, il y a eu 2 décès maternels, 2,
on va commencer effectivement à s'interroger pour dire effectivement, est-ce que je suis une bonne sage-femme? Est-ce que je suis un bon médecin? Je pense que le concept de s'auto-évaluer peut aussi effectivement nous aider à avancer dans ce sens. Et je pense que à ce niveau, les anthropologues peuvent nous aider à nous améliorer. Je pense que je vais pas traîner longtemps. Je vais passer la parole à la prochaine session et merci pour votre patience. Merci. Bravo.